La revue de presse avec Aurélien de Vernois. Bonjour Aurélien.
Bonjour Juliette.
Et ce matin, le verdict tombait un peu tard, mais que la plupart des quotidiens français mettent tout de même en une. Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de prison hier par la Cour d'assises spéciale de Paris.
Le frère de Mohamed Merah était reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue d'actions terroristes, mais pas de complicité dans les attentats commis par son cadet. Un verdict qui illustre les doutes et les interrogations nées au fil des débats, souligne le Figaro, et qui poursuit le quotidien, ne répond ni aux demandes de l'accusation, la perpétuité, ni à celle de la défense, l'acquittement. Et si les avocats des deux camps estiment pour la plupart que les juges ont entendu leurs arguments, du côté des familles des victimes, les réactions sont beaucoup plus partagées. Le Parisien revient ainsi sur les larmes de Latifa Ibn Ziaten à la sortie de la salle d'audience. On est trop naïf en France, dans moins de 15 ans, Abdelkader Merah sera dans la rue et il représentera un danger pour nos enfants, dénonce la mère d'Imad Ibn Ziaten, l'un des trois militaires assassinés par Mohamed Merah. On peut se demander si le verdict aurait été le même avec un jury de citoyens, s'interroge La Montagne. Le jury de cette cour d'assises spéciale était en effet composé de magistrats. Il y a jugement et jugement, répond le journal de la Haute-Marne. La justice telle que la souhaiterait la rue n'a souvent rien à voir avec celle qui se joue dans les prétoires. D'un côté, c'est le cœur qui parle, de l'autre, la stricte application du droit. Un avis partagé d'ailleurs par le très médiatique avocat d'Abdelkader Merah, Éric Dupond-Moretti, qui s'est félicité après l'annonce du verdict que les juges ne se soient pas laissés, je cite, « influencer par l'opinion publique ».
Autre sujet très suivi en France, Aurélien, celui de la crise en Catalogne.
L'étau se resserre autour des indépendantistes catalans, titre en une Le Figaro, qui publie une interview du chef de la diplomatie espagnole. Alfonso Dastis estime que Carles Puigdemont a voulu internationaliser la crise en se rendant en Belgique et considère qu'il sera compliqué pour le leader indépendantiste de se porter candidat pour l'élection régionale du 21 décembre, s'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt, chose qui devrait être actée ce vendredi. Les éditorialistes français sévèrent avec le héros du sécessionnisme catalan. L'Alsace compare la fuite de Carles Puigdemont à Bruxelles à celle d'un dictateur déchu cherchant l'asile au siècle dernier. Ce n'est pas très glorieux, selon le quotidien de l'Est de la France. L'Union Lardonnais estime de son côté que Madrid a repris la main de façon magistrale et que côté catalan, les héros ne sont plus ce qu'ils étaient. Conséquence, la Catalogne se retrouve à la case départ.
Il faut dire que la France a ses propres défis en la matière.
A commencer par la Nouvelle-Calédonie, où un référendum d'autodétermination est prévu l'an prochain, 30 ans après le désastre d'Ouvéa. Il faut éviter le grand bond en arrière, alerte Le Monde, face à un scrutin qui pourrait raviver les rancœurs entre partisans et opposants à l'indépendance de l'île. L'indépendance, pomme de discorde au sein de la société calédonienne. C'est ce qu'illustre un article du Figaro où un maire opposé à l'indépendance s'interroge sur la viabilité d'un État souverain, alors que peu de Kanaks, comme lui, les Kanaks, la population native de l'île, occupent des postes à responsabilité.
Les quotidiens qui reviennent également sur le centenaire de la déclaration Balfour, c'était hier.
Une déclaration qui a appuyé une cause libératrice, mais engendré le conflit, estime l'universitaire Denis Charbit, enseignant à l'université de Tel Aviv, dans les colonnes du Figaro. 20 lignes, poursuit-il, qui continuent de diviser Palestiniens, y voyant la source de leur malheur, et Israéliens, pour qui il s'agit de la réparation de siècles de persécution. La Croix y consacre son éditorial en une et se demande si, face aux menaces qui l'entourent, Israël ne pourrait pas trouver judicieux de proposer à ses plus proches voisins, un foyer national palestinien. Le Monde, de son côté, publie une enquête sur l'antisémitisme persistant en France. Un acte raciste sur trois est commis contre des juifs dans le pays, alors qu'il ne représente qu'1% de la population. Mais il y a aussi de graves dérapages sur Internet. Marc Knobel, directeur de recherche au Conseil représentatif des institutions juives de France, pointe la responsabilité des géants des réseaux sociaux peu réactifs et surtout réticents aux lois françaises très strictes en la matière. C'est un combat au quotidien. Si nous le perdons demain, on n'aura plus de prise sur rien. Tout se vaudra, mais on peut encore agir, conclut le chercheur. En attendant, souligne l'article, les départs de Français juifs vers Israël se poursuivent.
Et toujours dans Le Monde, cette enquête sur l'utilisation du viol comme arme en Libye depuis 2011.
Cela a commencé durant la révolte de la répression de la révolte anti-Kadhafi, mais les pratiques ont perduré bien au-delà et continueraient encore. L'enquête du journal est réalisée par la documentariste Cécile Allegra. Elle livre les témoignages de Libyens, hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, pour qui il est extrêmement difficile de parler. Le traumatisme est terrible, la honte pesante. La première partie de cette enquête, à lire absolument, se déroule en Tunisie et se focalise sur le défi de trouver des Libyens prêts à témoigner publiquement. La seconde partie, qui paraît aujourd'hui, conduira la journaliste sur les lieux de ces crimes en Libye.